Besoin positif des choses physiques sont parfois des demi-lumières, parfois des fausses lumières. Je n'ai pas compris le sens.
Les besoins?
Le besoin positif des choses physiques sont parfois des demi-lumières, parfois des fausses lumières.
Qu'est-ce qu'il y a avant?
Car tout ce qui n'est qu'extérieur, tout ce qui n'est pas un sens ou une vision spirituelle, les constructions, représentations ou conclusions de l'intellect, les suggestions ou instigations de la force de vie, le besoin positif de choses physiques sont parfois des demi-lumières.
Tout ça, pas seulement ça. Tu comprends? C'est toutes ces choses-là qui parfois sont des lumières, c'est-à-dire des connaissances mitigées, mélangées à de l'ignorance, et parfois des fausses lumières, c'est-à-dire pas de connaissances du tout. Simplement des idées, des conceptions, des manières de voir, des manières de sentir. Toutes les choses qui sont considérées comme connaissances dans la conscience humaine ordinaire, c'est tout ça qu'il parle, qu'il dit. Il parle même jusqu'aux besoins. Aux besoins physiques, n'est-ce pas? Les besoins du corps, que généralement on considère comme des choses impérieuses et qui ont leur vérité en elles-mêmes, il dit même ça, ça peut être seulement une lumière tout à fait partielle, c'est-à-dire un semblant de connaissance, ou bien même une chose fausse. Même ce, n'est-ce pas, les gens ont toujours l'impression que ce qu'ils appellent le besoin de leur corps, c'est-à-dire ce que le corps demande, est une loi absolue. Qu'on doit, que si on n'y obéit pas, eh bien, on fait une erreur. Et il dit là que ces besoins eux-mêmes sont des plus ou des lumières très partielles, c'est-à-dire seulement une façon de voir les choses, ou bien pas de lumière du tout, tout à fait faux. Il ne reconnaît pas les besoins du corps comme des choses qui ont leur vérité en elles-mêmes. Il dit ce n'est pas vrai. C'est seulement une idée que vous avez. Une impression. Ce n'est pas une chose vraie qui apporte sa vérité en elle-même. Et ça va à l'encontre de toutes les idées modernes. Toutes les idées modernes sont que le corps porte sa vérité en lui-même et que ses besoins sont des choses impératives, qui sont vraies. Et que si on lui refuse ses besoins, eh bien, on fait une faute grave contre son corps qui en subira des conséquences. Mais lui dit que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas comme ça. Que ces besoins eux-mêmes sont en partie des mensonges, en partie des vérités. Une vérité tout à fait relative, ou même, il dit, des fausses lumières. Quelque chose qui est tout à fait faux, qui n'est pas vrai.
Qu'est-ce que c'est? Quelle est la loi? La loi intérieure, la loi spirituelle et supramentale.
La loi spirituelle
et supramentale.
Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité de chaque être. Chaque être porte en lui sa loi spirituelle, sa loi supramentale. Ce n'est pas la même pour tous. C'est pas une seule loi identique. C'est pour chacun la vérité de son être. C'est-à-dire la chose qu'il doit réaliser dans l'univers et la place qu'il doit occuper dans le monde. Ça, c'est la vérité de son être.
Mais qu'est-ce que c'est un paganisme esthétiquement intellectuel? Un paganisme esthétiquement intellectuel.
Comme ça qu'il décrit les différents panthéons dans les différents pays, spécialement en Grèce ou dans l'Inde. C'est-à-dire que c'est une façon esthétique et intellectuelle de transformer toute chose en des créatures divines, des êtres divins, toutes les forces de la nature, tous les éléments, toutes les forces spirituelles, toutes les forces intellectuelles, toutes les forces physiques, tout ça est transformé en un nombre de divinités et de leur est donné une réalité esthétique et intellectuelle. C'est la façon, une façon symbolique et artistique et littéraire et poétique d'avoir affaire avec toutes les forces et toutes les réalité universelle. Et alors ça crée des panthéons comme le panthéon grec par exemple, ou bien le panthéon égyptien, ou bien le panthéon de l'Inde. Tous ces dieux sont des représentations qu'il appelle esthétiquement intellectuelles. Une façon de concevoir l'univers. Pas pour dire que ça ne correspond pas à une vérité, à une réalité plutôt qu'à une vérité. Il y a des êtres comme ça, mais c'est un certain genre d'approche du monde universel, des mondes universels.
Est-ce que l'éthique
ça dépend des gens. Il y a des gens que ça aide et il y a des gens que ça n'aide pas du tout. C'est une chose tout à fait artificielle et arbitraire. Et dans la majorité des cas, parmi les meilleurs, ça enraye le véritable effort spirituel par une sorte de satisfaction morale qu'on est dans le droit chemin et qu'on est un honnête homme et qu'on fait son devoir et que on satisfait à toutes les nécessités morales de la vie, alors on est si content de soi qu'on bouge plus et qu'on ne fait plus de progrès. Il est très difficile pour un homme vertueux d'entrer sur le chemin de Dieu. On l'a dit très souvent, mais c'est tout à fait vrai. Parce qu'il est très satisfait de lui-même et qu'il a l'impression qu'il a réaliser ce qu'il devait réaliser, il n'a plus ni d'aspiration, ni même de cette humilité élémentaire qui fait que on veut faire des progrès. Je pense que l'on appelle ici un homme sattvique. Généralement, il est assis très confortablement dans sa vertu. Et ne pense jamais à en sortir. Alors ça vous met à des millions de lieues de la réalisation des vies. Ce qui aide, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la lumière intérieure, c'est de se faire à soi-même un certain nombre de règles qui, naturellement, ne doivent pas être tout à fait rigides et fixes, mais qui doivent être assez précises pour s'empêcher de sortir complètement du droit chemin ou de faire des erreurs irréparables. Des erreurs dont on subit la conséquence dans toute sa vie. Pour ça, il est bon d'ériger en soi un certain nombre de principes, mais qui doivent être pour chacun en accord avec sa nature. Si vous adoptez une règle sociale collective, vous vous mettez immédiatement dans l'esclavage de cette règle sociale, et alors ça vous empêche presque radicalement de faire un effort de transformation. Oui.
Et puis se soumettre à la chasse divine.
Oui.
Maintenant que le super mental a descendu, est-ce que ça
oui.
Peut être plus facile?
Eh bien, c'est ça la lumière au-dedans. Maintenant. Quelle est la difficulté? Où est-ce que tu vois une objection ou une contradiction? Quelle est ta difficulté?
Comment tu veux comprendre que ça s'est devenu plus facile?
Hein? Quoi?
Mais quel est l'effet de cette descente?
Bien, tant que ça se produise en toi, tu le connaîtras. Bien. Imagine que dans une chambre obscure, tu as mis une lampe de pétrole qui brûle avec du pétrole, comme on avait dans le temps. Il y a 50 ans, on avait des lampes de pétrole dans les champs. Comme maintenant, il y a des lanternes, comme ça. Enfin, c'était un peu mieux, mais c'était la même chose. Alors, tu as éclairé ta chambre avec ça. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un a inventé le moyen de voir de la lumière avec l'électricité. Alors, ta lampe de pétrole est remplacée par une belle lampe électrique qui éclaire 10 fois plus. Quelle est la difficulté dans ton problème? Tu avais toujours une lumière pour éclairer ta chambre, ta chambre intérieure, mais au lieu d'une lampe de pétrole, c'est devenu une lampe électrique. Tu comprends pas? Non, c'est pas très difficile à comprendre.
Enfin, voir, c'est bien.
Voir. Entre dans la chambre, tu verras. C'est tout. Rien. C'est tout. Oh.
Quant au reste, il est bon qu'à nous retarder à nous ou à nous oublier. Qu'est-ce que c'est reste?
Quant au reste, il n'est bon qu'à nous retarder ou à nous embrouiller.
Il parle de toutes ces choses-là. Il parle des constructions mentales, des représentations, des conclusions de l'intellect, les suggestions ou instigations de la force vitale, les besoins du corps. Alors, tout ça, c'est parfois des demi-lumières, parfois des fausses lumières, c'est-à-dire pas de lumière du tout, et qui ne peuvent que servir un petit peu sur le chemin, nous aider un petit peu, et seulement pendant quelque temps. Et tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas ces constructions, etc., etc., tout le reste, c'est-à-dire toutes les innombrables pensées, mouvements, sensations et sentiments que l'on a, eh bien, ça ne sert à rien du tout. Et pire que de ne servir à rien du tout, ça nous retarde sur le chemin. Voilà. Ou ça nous embrouille. C'est-à-dire que ça crée une confusion intérieure. Et qu'il ne faut pas en tenir, il faut en tenir aucun compte. C'est ça. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas cette description qu'il a faite, toutes les innombrables choses que l'on pense, que l'on éprouve, que l'on sent, que l'on voit, que l'on fait, etc., tout ça, ça ne sert à rien du tout. Naturellement, en se plaçant au point de vue yoga, il y en a encore? Quoi?
Comment entrer?
Hein?
Comment entrer dans le champ?
Tu prends une clé et tu ouvres la porte. Il faut trouver la clé. où tu t'assois devant la porte jusqu'à ce que tu aies trouvé le mot, l'idée ou la force qui l'ouvre. Comme dans le conte des mille et une nuits. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. Il faut s'asseoir devant la porte et puis se concentrer jusqu'à ce qu'on ait trouvé ou la clé ou le mot ou le pouvoir pour l'ouvrir. Si on n'essaye pas, ça n'ouvre pas tout seul. Peut-être après des milliers d'années. Mais tu veux le faire tout de suite. Alors. Pour le faire tout de suite, il faut s'asseoir obstinément devant la porte jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen. Ça peut être une clé, je te dis, ça peut être un mot, ça peut être une force, ça peut être n'importe quoi. Et tu restes devant la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et tu ne penses pas à autre chose. Seulement à ta porte.
Krishna, n'y a-t-il pas une serrure d'où la lumière peut s'échapper?
Une serrure? Qu'est-ce que tu veux dire? Une fente? Que la lumière peut s'échapper de la porte? Peut-être qu'elle s'échappe. Mais peut-être qu'on ne la voit pas aussi. Elle s'échappe. Mais alors c'est un autre problème. Il faut ouvrir ses yeux. Alors, il faut apprendre à ouvrir les yeux, à regarder. Les tout petits enfants ne voient pas. Même les toutes petites bêtes ne voient pas. Les tout petits chats ne voient pas. Ça leur prend ou quelques heures ou quelques jours. Ils ne voient pas. Il faut apprendre à voir.